chronique de Canal Académie.
On retrouve Jacques-Louis Binet, correspondant de l'Académie des Beaux-Arts.
Je suis très heureux aujourd'hui, pour la cinquième chronique d'Un regard et d'une œuvre, de parler de l'atelier d'Étienne Martin, qui est montré actuellement, non pas à Paris, mais à Lyon, au Musée des Beaux-Arts de Lyon, et il sera montré jusqu'au 23 janvier 2012. Alors j'ai eu le privilège de bien connaître cet atelier, donc de bien connaître Étienne Martin, d'avoir souvent fréquenté ce lieu qui était un lieu impossible. C'était 7 rue du Pot-de-Fer, et comme le dit Pierre Watt, qui a participé à l'exposition et au catalogue, il s'agissait d'un chaos organisé, d'un désordre maîtrisé, mais d'un endroit impossible où étaient entassés d'abord tous les instruments qui servaient à Étienne Martin pour travailler, c'est-à-dire des poulies, des chaînes, aussi ses vieilles collections. Il avait des collections de cornes, il avait des collections de cannes, et finalement, on avait en négatif les gestes du sculpteur, les fers qui servaient d'armature et qui ensuite vont servir de dessin. Et cet atelier, vous le savez, est devenu une sorte d'interprétation de sa maison de L'Oriole, c'est-à-dire qu'il y avait une cave où on allait, une petite fenêtre en arrière et sous les toits une lucarne où menait une échelle et qui reprenait déjà le thème de la maison atelier. Et comme leur marque tous ceux qui y ont été, bien évidemment actuellement cet atelier est vide, l'absence du sculpteur s'y fait sentir, mais il n'était finalement pas fait pour habiter. Comme l'écrivait Étienne Martin, cet atelier était habitué par son imagination et un très bon critique qu'il a bien connu, qui s'appelle Errol Zeman, a écrit qu'Étienne Martin voulait oublier les limites naturelles de son atelier et l'entendre à une mythologie beaucoup plus importante. Alors, le paradoxe réussi par les deux organisateurs de l'exposition, Sylvie Ramon, qui dirige le Musée des Beaux-Arts de Lyon, et Pierre Watt, qui est professeur à la Sorbonne, c'est d'avoir été capable de reconstituer ce lieu qui n'est plus, de reconstituer ses souvenirs au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Et pour cela, eh bien, ils ont suivi un fil rouge, qui est le fil rouge du parcours d'Étienne Martin, avec d'abord les années de formation, puis ensuite 3 grands thèmes qui vont se succéder pour de temps en temps se côtoyer, les nuits, les couples et les demeures. Avant ces thèmes, les années de formation, où est évoqué très rapidement les repères de la vie du sculpteur. Il est né en 1913 et modestement il écrivait 30 ans après, j'ai appris quelque chose, j'ai un peu avancé dans le domaine de l'art. En réalité, il a vécu une première période troublée, qui est celui des provinces, avec une naissance à L'Oriole, dans une maison qu'il n'oubliera jamais, où il a passé des années de son enfance merveilleuses. Bien que son père ait été au front de 14 à 19, il était élevé par sa mère, par sa grand-mère. Puis, il a été un pensionnaire assez malheureux au lycée de Valence, où il découvrait la vie. Et puis, à l'école des Beaux-Arts de Lyon, où, grâce à un prix, il vient à Paris. Il rentre à l'Académie Ranson et il devient massier de cette académie. C'est une période où il rencontre beaucoup de gens. Son ami Michaud était resté à Lyon, mais il se marie en 1938. Étienne Martin va être prisonnier, puis libéré. Et ensuite, il va vivre dans la Drôme, à Nyon, puis à Oppède, et puis à Dieulefi. Et encore une année qui passe en Normandie, à Mortagne, et il ne rentre à Paris que 1947. Cette période fut aussi une période de rencontres avec beaucoup de gens, avec l'architecte Raymond, avec Marcel Duchamp, avec Berthold, avec Vieira da Silva, avec ce qui deviendra sa galériste Denise Bretonneau. Il rencontre aussi Bernard Zerfus, qui était prix de Rome, mais les prix de Rome ne pouvaient plus aller à Rome. Et il rencontre quelqu'un qui aura beaucoup d'influence sur sa vie, Henri-Pierre Rocher, qui fut l'auteur de Jules et Jim, c'est-à-dire du texte que va utiliser ensuite François Truffaut. Dans toute cette période, des retraites religieuses, une grande spiritualité, et finalement, il rentre à Paris dans l'atelier qu'il avait déjà acquis, rue du Fer à Moulin. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pendant cette période, il travaille. Et il a beaucoup travaillé des figures de 1935 à 1994, c'est-à-dire juste qu'à un an avant sa mort. Et ces figures ont été totalement oubliées. Ces figures, elles étaient dans l'atelier sur le sol, qui n'était pas empierré, où il y avait la terre directe, donc ces sculptures étaient oubliées. En réalité, Étienne Martin disait « Je n'aurais jamais pu faire mes œuvres abstraites et la sirène, je n'y avais pas aussi fait des œuvres, ce qu'il appelait des œuvres directes. » Le visage est l'énigme par excellence. Vous voyez, l'énigme, c'est un mot qu'il aimait beaucoup. L'énigme par excellence, je sais qu'un visage dépasse de beaucoup la réalité plastique, on croit découvrir un autre, qui que ce soit, et mille observations nous amènent à le voir d'une manière toute différente. Un jour, tout change encore, la lutte qui repose sur l'émotion du contact humain se précise, devient plus serrée, et il reste l'énigme, les proportions, le regard, la couleur, les cheveux, et ce va-et-vient entre abstraction et figuration l'intéresse beaucoup. Et il concluait, la nature est infiniment plus abstraite que tout ce qu'on peut imaginer. Alors, ce sont des personnages importants. Ça sera Gurdjieff, ça sera son père, ça sera une série d'architectes, des gens qui verra beaucoup. Ça a été totalement oublié et c'est une des choses assez étonnantes de cette exposition, c'est de les avoir montrés parce qu'elles avaient été totalement oubliées. Deuxième temps fort, le début des couples. Alors, vous savez que l'œuvre d'Étienne Martin va se découper en trois séries, les nuits, les couples et les demeures. Les nuits apparaissent déjà avant la guerre. La première nuit date de 1935. Et il s'agit d'une femme assez banale, assez classique. Il s'agit d'une autre femme qu'il appelait la sauterelle, 1935, qu'il considérait comme, entre guillemets, plus abstraite. Et ces nuits, pour lui, ont une double signification. D'une part, la nuit est femme, et ça il va le répéter, mais en même temps la nuit est sommeil. Il va aller de l'un à l'autre pour constituer une série qui est très intéressante parce qu'elle nous montre comment a commencé l'œuvre d'Étienne Martin. Elle a commencé par nuit 1, c'est-à-dire que d'abord il essaye de mettre en place cette femme. Elle est debout, ensuite elle est plus ou moins courbée, et puis elle s'assied. Et quand elle s'assied, elle prend déjà la position qui sera celle des autres nuits, c'est-à-dire qu'avec une jambe, un genou qui est un peu levé, une main qui s'appuie sur ce genou et une jambe qui est recourbée et elle regarde le spectateur. Et cette première sculpture de 1935 s'appelle « La nuit 1 ». Ce qui est très intéressant, c'est que la même année, en 1935, il fait quelque chose de tout à fait différent. Cette première sculpture était en plâtre. Et à partir de 1925, il fait une sculpture qui est tout à fait différente, qui est en pierre, où le bloc de la pierre reste là. Et puis, elle est déjà extraordinairement stylisée, avec la tête qui est accoudée sur les mains, avec de part et d'autre, de cette sorte d'accoudoir, les deux jambes. Et le reste est consacré et resté et donné à la pierre. Ça s'appelle la nuit 2. Même année que la nuit 1, 1935, déjà totalement stylisée. Et puis, il continue, et puis il va faire autre chose. Il y a la guerre, il est prisonnier, et ce n'est seulement qu'après la guerre qu'il va reprendre, quand il est dans le Midi, à Oppède, une superbe sculpture, cette fois-ci en bois, qui s'appelle « La nuit d'Oppède ». Alors, la tête est presque réaliste, tout le reste est très réaliste, mais très stylisé, avec exactement les mêmes formes que celles de la nuit 2, mais beaucoup plus travaillées, beaucoup plus, si je peux dire, féminines. On voit bien la jambe, on voit bien la tête, et tout ça est lié dans une grande unité en bois. Alors, la série se continue juste après la guerre, après la nuit d'Oppède, par la nuit ouvrante, avec deux bras articulés qui peuvent s'ouvrir et se fermer, pour bien montrer le symbolisme de la femme et de la nuit. Et puis, beaucoup plus tard, 1951, bronze, la nuit Nina, qui n'est pas au musée de Lyon, mais qu'on peut voir au musée d'art moderne de la ville de Paris. Et cette fois-ci, alors qu'il donne un prénom à cette nuit, un prénom de femme, eh bien, il devient beaucoup plus symbolique. On ne voit plus le corps de la femme, on voit des volumes, des formes, qui, encore une fois, ne représentent ni Nina, ni une femme, ni une nuit, mais seulement une sculpture, et comme le dira Étienne Martin, et comme toutes ces sculptures, elle était habitée par l'imaginaire. Deuxième période, qui succède de 1943 à 1956, les couples. Alors, il y en a deux superbes à Lyon. Les couples étaient soit verticaux, soit horizontaux, avec des grands couples de 46, le couple S. Mais là, nous avons simplement deux couples verticaux, un couple rouge, où les jambes s'accolent et s'entrecroisent, et puis un autre couple, qui est un jeu des mains, de la tête et du corps, qui s'appelle le couple 2. Et là encore, Étienne Martin conclut, j'aime ces couples, je ne suis pas pour la dualité, je n'aime que l'union, pas de conflit, mais je préfère ce moment tout à fait rare où deux êtres peuvent se rencontrer et finalement tout est couple, l'un est le moule de l'autre et l'on ne saurait dissocier l'un de l'autre. Et il conclut en sculpteur, je ne vois pas de différence entre le vide et le plein. Ça, c'est très Étienne Martin. Il est parlé d'un fait et il arrive à la sculpture. Je ne vois pas de différence entre le vide et le plein. Troisième période qui va s'étaler pendant 40 ans, qui est celle des demeures, qui ne cesseront d'inspirer Étienne Martin. Ces demeures sont faites de deux manières. Soit elles sont construites presque à la main par le plâtre, montées, soit au contraire, il part de grands arbres, de grandes plantes, qui va travailler, qui va épurer pour en faire des demeures. Alors, dans ces arbres, eh bien, il y a des demeures superbes, très connues, qui malheureusement ne sont plus en France. Il y a une autre demeure qui s'appelle l'Opéra. Là encore, une racine, mais une racine avec toutes les petites racines qui l'entourent. Et puis, nous avons au musée de Lyon d'autres demeures. Là, une lame de tarot, où il reste tout à fait, c'est pas une carte, c'est quelque chose de très anthropomorphique. La demeure 12, ou passage, ou tour des ombres, qui est percée des couloirs et qui rappelle les couloirs de sa maison de L'Oriole. Et puis deux grandes sculptures, le fil du temps et le miroir. Le fil du temps, c'est toute la conception d'Étienne Martin dans le temps. Pour lui, et il l'écrit, j'aime remonter le fil du temps. Le fil du temps est une chose non seulement essentielle, mais qui participe du présent. Tout est infiniment lié, il n'y a ni passé ni futur, mais seulement un temps actuel. Et ça, c'est tout son travail sur la mémoire, tout son travail sur les demeures pour retrouver son enfance. Et il va essayer dans cette maison mythique, où n'a pas été depuis très longtemps, qui était au fond une maison assez banale, de retrouver ce qui l'avait frappé. D'abord un mur, ensuite deux aspects, la maison de l'Est et la maison de l'Ouest, le soleil, le nord et le sud. Et dans chacune de ces pièces, il va reconstituer par le texte, par le dessin, par la sculpture, l'endroit de ses demeures. Chaque pièce sera marquée par une date de sa vie et par une sculpture. Donc une sorte de mythologie qui ne va pas arrêter de continuer pendant des années. Et là, on a déjà vu le temps. Et il y a une autre superbe sculpture qui appartient à Beaubourg, qui s'appelle le mur miroir, car cette maison, on ne pouvait pas passer d'une partie à l'autre sans passer par le rez-de-chaussée ou par le dernier étage. Il y avait donc le mur. Et pour lui, le mur, c'est quelque chose d'essentiel parce que le mur est en nous. Le mur, c'est ce qui nous empêche d'aller plus loin. Alors, il l'appelle gentiment mur miroir, car de temps en temps, on se retrouve, mais beaucoup plus souvent, on est bloqué. Et là, le mur est représenté par une immense place de caoutchouc qui bat sa sculpture. Et le tout se termine par les abécédaires. Les abécédaires, ça veut dire il a recueilli tout ce qu'il avait fait, soi-disant par l'écrit. Et c'est vrai qu'il tenait un journal. En réalité, il recueillit dans des meubles le premier abécédaire d'art de 1934, alors qu'il était à peine arrivé dans son atelier. Il va le continuer jusqu'à la fin de sa vie. Et là, nous avons droit à un superbe abécédaire. C'est-à-dire un grand meuble fermé avec une série, j'ose pas appeler des tiroirs, mais d'étages. Tout ça est fermé et là-dedans, il veut recueillir tous ses souvenirs, tout le passé, toute l'histoire, toute sa vie. Alors voilà, et l'exposition se termine glorieusement par une sculpture terrifiante qui s'appelle Ecce Homo, qui est d'une violence effrayante, qui fait un peu appel à l'érotisme. Étienne Martin n'était pas tout à fait absent de l'érotisme. Quand il faisait au début, quand il a commencé par faire ses Pietà, il y avait aussi une Pietà qui devenait une déesse. Vous voyez, c'est toujours un tout petit peu confus, il est toujours un tout petit peu ambigu. Et parmi ses premiers bois, il y a des bois qui étaient des Christs qui étaient superbes, et puis il y avait aussi un bois phallus. Tout ça, ça reste mélangé, et dans Ecce Homo, qu'il a créé en bois en 1993, 2 ans avant sa mort, il y a l'homme, mais il y a aussi une note violente et une note érotique. Alors, voilà les grandes étapes qui étaient les nuits, les coupes, les demeures. J'ai volontairement oublié beaucoup de choses, dont je dirais simplement plusieurs mots. Premièrement, la couleur. De temps en temps, il peint. Mais il peint pas comme un peintre, il peint comme un sculpteur, il peint pour marquer. Comme il dit, je peins comme pour des signaux colorés, des poteaux indicateurs. Mais c'est plus compliqué que ça, parce qu'il y a des sculptures qu'on ne peut pas imaginer sans la peinture, comme la Julie de 1951, et que cette peinture, cette couleur, quand tu la prends avec toujours les mêmes couleurs, le bleu, le rouge et le blanc, eh bien, elle va l'amener à un autre domaine, qui est celui des tissus, qui est celui des passementeries. C'est un sculpteur qui va s'intéresser aux passementeries. C'est assez singulier, ce sculpteur violent, qui travaillait dans la pierre, qui travaillait lui-même, corporellement, sans assistant, le bois. Eh bien, il va s'intéresser aux tissus, et ça va se conclure par une superbe sculpture qu'il appellera lui-même une énième demeure, qu'on appelle le manteau. Le manteau, c'est un énorme habit qui pèse 80 kilos, sur lequel d'ailleurs il va écrire en avant et en arrière de nouveau le dessin de ses demeures. Autre nouveauté, il travaille le fil de fer. Et ce fil de fer, d'abord il lui a servi le fer comme soutien pour ses sculptures, mais très rapidement, il lui enlève tout ce qu'il pouvait avoir de rugueux et ça devient des dessins. Et beaucoup de sculptures ont été prévues par des fils de fer qu'il appelle dessins, avec ces fils de fer qui sont pratiquement transparents et que de temps en temps, il va accrocher sur le plafond pour le voir de haut et d'en bas. Donc, il va réaliser ce qu'on ne connaissait pas, des suspensions. Il sculpte aussi pour le plafond. Autre nouveau point d'interrogation, autre nouveauté, le bestiaire. Le bestiaire est toujours fait de racines. Toujours. Bon. Et enfin, dernier point d'interrogation, qui est peut-être le plus important, derrière toute l'œuvre d'Étienne Martin, il y a des interrogations, il y a des énigmes. Et ces énigmes ne sont pas encore toutes comprises. Actuellement, et c'est l'avenir sans doute de son œuvre, qui permettra d'être mieux connue, une grande thèse est entreprise par Sabrina Dubed, qui reprend tous ses textes, et Dieu sait s'il écrivait, pour essayer de mieux comprendre. Alors, un oubli majeur, l'Alléluia. L'Alléluia, c'est une œuvre couleur superbe qui n'est pas dans l'exposition, qui est dans le catalogue. Et là, on voit déjà l'esprit d'Étienne Martin. L'Alléluia a été mise au musée de Lyon, mais en dehors de l'exposition, dans l'atelier central où elle l'irradie partout. Elle est actuellement en dépôt à Valence, mais pour le moment, elle est dans l'exposition et elle l'irradie dans tout ce musée qui est quand même un peu raide, qui est quand même un peu dur, et elle transforme le hall et le grand escalier du musée. Voyez que l'œuvre Étienne Martin a une grande continuité, qu'elle irradie à partir de la femme, à partir des nuits, dans des demeures, qui est une mythologie qu'on n'a pas encore très bien expliquée, qu'on n'a pas encore très bien comprise, et que, comme l'avait dit Zeman, c'est-à-dire un grand critique qui s'est beaucoup occupé de lui, ce qui est fascinant, c'est qu'avec l'Alléluia et toute cette mythologie des demeures, l'atelier n'est plus rue du Pot-de-Fer. Vous pouvez le retrouver, et ça c'est lié au talent des organisateurs, vous pouvez le retrouver à Lyon, où vous verrez les grandes étapes de son travail, vous verrez la beauté des couleurs, vous verrez la finesse des fils de fer, vous verrez Étienne Martin.